culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toi, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au Culte Espoir. Je m'appelle Marilyn. Je suis ravie, comme chaque fois, d'être avec vous dans ce studio, prête pour un nouveau culte avec toi et avec vous qui m'entourez. Alors justement, avec moi aujourd'hui, il y a Marina, Stéphane. Bonjour les amis.
Hello.
Bonjour.
Merci en tout cas, Marilyn, d'avoir accepté de remplacer au pied levé Amandine, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui est malade. Alors, tu vas reprendre ses chroniques, c'est top. J'aimerais profiter qu'on souhaite à Amandine force et prompt rétablissement, que Dieu soit un chouette compagnon sur cette journée alitée.
Oui. Et du coup, c'est toujours chouette, malgré tout, de pouvoir partager ce moment. Et après avoir beaucoup échangé, préparé les uns avec les autres, quand on se retrouve, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ce temps. Et puis, nous accueillons notre invité du jour pour deux cultes. Bienvenue Eric Bélois.
Merci, c'est un plaisir.
Alors, tu es étudiant en théologie.
C'est ça.
Et certains de nos auditeurs qui nous suivent sur YouTube te connaissent bien parce que tu es co-responsable d'Espoir Média. Et tu animes notamment des émissions sur YouTube d'études de la Bible qui s'appellent 3DS. Alors, est-ce que tu pourrais ajouter ou préciser quelque chose sur ta présentation ?
Sur ma présentation, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis marié depuis longtemps, j'ai 3 enfants qui sont des jeunes adultes maintenant. J'ai toujours habité en Suisse romande, je suis suisse, entre autres, donc de la région, vraiment de la région. Et puis j'ai eu un parcours professionnel dans le milieu commercial et récemment, effectivement, depuis quelques années, j'ai fait un changement d'orientation et je me suis lancé dans la théologie. Donc maintenant, j'arrive au terme de ce cursus théologique, un master que je dois terminer d'ici quelques semaines, quelques mois.
Oh.
Donc voilà, puis après, on verra ce qui va se passer. C'est vrai que maintenant, je suis, comme tu l'as dit, responsable d'Espoir Média et puis... C'est déjà un beau challenge, un chouette avenir. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a un objectif qui est très, très intéressant. Et je suis ravi d'être à Espoir Média, mais particulièrement avec vous aujourd'hui.
C'est un privilège, en tout cas, de t'avoir.
Merci.
Et d'ailleurs, tu nous proposes pour ce culte une thématique qui revient souvent dans les discussions, aussi suite aux drames qui se produisent dans le monde. De quoi vas-tu nous parler ?
Alors, c'est vrai que quand on écoute les gens, il y en a beaucoup qui tiennent Dieu pour responsable des problèmes qui arrivent, qui leur arrivent ou qui arrivent autour de quelle réponse on peut donner à ça, finalement, à cette question-là. Est-ce que Dieu est vraiment responsable ? Voilà, c'est là-dessus que je vous propose une petite réflexion que j'aimerais partager avec vous.
D'accord. Eh bien, nous prions que, comme toujours, le Saint-Esprit puisse nous guider, nous inspirer et ouvre notre intelligence, notre cœur à ce que Dieu a envie de nous partager et de nous dire aujourd'hui.
En préparant les chroniques pour ce culte et en étudiant le thème de cette semaine, plusieurs souvenirs me sont remontés. Ce thème m'a toujours fait réfléchir. À plusieurs occasions, je me suis posé la question « Pourquoi ? Pourquoi ça arrive à moi ?» Pour moi, une personne qui est très logique, j'ai besoin d'une réponse, et en plus une réponse logique, pour comprendre les choses. Parfois, j'avais la réponse assez rapidement à mes questions, et parfois, ça arrivait très tard, ou ça n'a pas encore arrivé. Il y a quelques questions qui ne sont pas encore arrivées, la réponse. Et en plus, c'est très difficile de comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi Dieu n'intervient pas ? Pourquoi Dieu laisse arriver ces choses-là ? C'est une question que tout le monde se pose, moi aussi. Et j'ai pu avoir une partie d'explication lorsque je suis devenu père. Ce que je veux dire, c'est comme tout père, comme père, je veux protéger mes enfants de blessures, des accidents, de tout ce qui arrive, de vraiment les malheurs, vraiment comme tout parent. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas... le faire tout le temps et je ne devais pas les protéger tout le temps. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais seulement de leur choix. Si mon fils décide de courir, il prend le risque de tomber. Suis-je coupable de cette chute ? Et si j'explique à mon fils de ne pas toucher la plaque de cuisson, mais il le fait quand même, suis-je coupable ? En plus, pour être un bon père, il faut que je laisse mes enfants faire leur propre choix, tout enseignant les bonnes choses à faire. C'est avec leurs choix qu'ils vont apprendre aussi le plus. J'ai compris que Dieu nous laisse faire les choix, les choses, et aussi avoir les conséquences de ces choix. Et les conséquences arrivent, ce n'est pas la faute de Dieu. Si je décide de brûler un feu rouge d'un grand croisement, sachant que c'est dangereux et interdit par la loi, quelle sera la conséquence? C'est sûrement que je causerai un accident, et je pourrai même blesser quelqu'un. Et cette personne-là qui pourrait être blessée n'a rien fait pour mériter ça. En gros, ce n'est pas la conséquence de son choix, mais c'est la conséquence de mon choix. Donc mes conséquences peuvent aussi impacter la vie des autres personnes. Dieu aimerait nous empêcher à faire des mauvaises choses, des mauvais choix. Vraiment, comme moi, j'aimerais que mes fils fassent tout le temps les bonnes choses. Mais quand nous décidons de le faire, Dieu sera toujours là pour nous aider et supporter aussi les conséquences. Il y a aussi une autre chose que j'ai compris, c'est parfois on demande des choses à Dieu. Dieu, je veux être fort. Mais parfois, Dieu ne va pas donner la force comme ça. Au contraire, il va nous donner quoi, des difficultés pour qu'on puisse apprendre à être fort. Si au cas où je demande à Dieu, je veux être sage, comme le fils de David, Dieu va m'envoyer des problèmes à résoudre. Si je demande le courage à Dieu, il va me donner des situations où je peux être courageux. Et si je demande à Dieu d'aimer, avoir de l'amour, Dieu va m'envoyer des personnes à aimer, à aider. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent. Mais ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'il faut s'accrocher à Dieu, essayer de faire les bons choix et faire confiance à Dieu.
Alors, la promesse du jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, un prophète de la Bible. Le contexte de cette promesse, c'est un peuple qui a perdu en fait une guerre et qui a vécu une déportation dans un pays étranger. Alors, ce peuple vit à ce moment-là un déracinement important. Hein. Sa ville d'origine a été mise à feu, à sang. Tous les rois et les enfants du roi zigouillés, tout est détruit. Ils doivent vivre dans un pays qui partage d'autres coutumes et qui ont des dieux étrangers à leur Dieu unique. Et ce peuple d'Israël vit un profond découragement et se demande ce qu'il adviendra finalement de la suite. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et Dieu leur fait à ce moment-là une promesse que tu trouves dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » C'est magnifique, hein, en tout cas comme promesse, quand on croit que tout est perdu, quand on a le sentiment que rien ne peut être réparé, restauré, guéri. Dieu, là, ici, nous promet quelque chose de nouveau, qu'on ne voit peut-être pas encore, mais qui grandit déjà. Alors, j'aimerais t'inviter dans cette chronique Louange en musique à prendre un peu de hauteur sur ta vie, sur ta situation de vie. Le premier chant que nous allons écouter est un gospel anglais, Redeeming the Years, de Phil Thompson. Les paroles sont dans la lignée de notre promesse du jour, les voici. Il y a de la beauté pour les cendres, Alléluia. Donc Alléluia, c'est un peu comme un cri de joie. Le Père ne t'a pas oublié. Une double portion pour la honte, Alléluia. Il est ici pour faire toute chose nouvelle. Viens recevoir la moisson pour tout ce que tu as semé dans les larmes. Il réécrit ton histoire maintenant et il rachète les années. Tous les enfants, levez-vous et chantez Alléluia. Le moment est venu pour nous de nous lever. C'est l'année du jubilé. Le jubilé, c'était un temps de délivrance, hein, de libération, d'esclavage et autres, de dettes. Il fait revivre les choses mortes. Venez recevoir la moisson pour tout ce que vous avez semé dans les larmes. Il réécrit ton histoire maintenant et il rachète les années. Il y a de la joie pour le matin, un vêtement de louange. Réjouis-toi car c'est une nouvelle saison, ta percée est là. Viens recevoir la moisson pour tout ce que tu as semé dans les larmes. Il réécrit ton histoire maintenant et il rachète les années.
Restoring everything that you've lost. Hallelujah. Father is redeeming your years. Hallelujah. Hallelujah.
double portion for the shame. Hallelujah. He is here to make all things new. Come receive the harvest. For all you've sown in tears, He's rewriting your story.
Joy, joy for the Lord. We put on. We rejoice. 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 R
Le chant que nous allons entendre maintenant a pour titre « Un vin nouveau ». Il nous parle de pression, de tension dans notre vie et nous dit que de ces choses défiantes, quelque chose de nouveau peut survenir. Après ce chant, eh bien, Amandine et Brian ont été cette semaine à la rencontre de Priscilla, une femme de foi extraordinaire qui a eu la gentillesse d'accepter et de nous partager un bout de son histoire. Alors je te laisse découvrir son témoignage.
Bonjour Priscilla.
Bonjour.
Merci d'être là. Tu as accepté de partager ton témoignage aujourd'hui et il me semble que ton témoignage il commence par une rencontre.
Bah oui, j'ai rencontré mon mari à un arrêt de bus en Angleterre. Lui, il était suisse et moi, anglaise. Et une année et demie plus tard, on s'est mariés. On avait beaucoup d'intérêts en commun, surtout notre foi en Dieu et la musique. Et on faisait la louange ensemble, on écrivait des chants pour Dieu, on a même fait un vinyle.
Ah là là, moi qui suis musicienne, j'aimerais pouvoir l'entendre ce vinyle. Et du coup, il me semble qu'il manquait une chose pour vous.
Bah oui, une chose nous manquait. On n'avait pas d'enfant. Les années passaient. Et tu sais, les gens peuvent être cruels hein, avec leurs paroles, même les chrétiens.
Même dans l'église.
Oui. Certains disaient, vous n'avez pas assez de foi. D'autres, ça viendra, vous verrez, vous n'avez pas assez de patience. Une personne m'a même dit en riant, vous savez jouer de la flûte, mais vous ne savez pas faire des enfants.
Ah, c'est dur.
Cela m'a beaucoup blessée. Mais après 13 ans de mariage, et après beaucoup de traitements pénibles, sans succès, et après que mon médecin me dise, vous n'aurez jamais d'enfants, je suis tombée enceinte. On était heureux comme tout, croyant que Dieu a finalement exaucé notre prière. Mais 10 semaines et demie plus tard, le fœtus s'arrêtait de grandir et j'ai fait une fausse couche. C'était la déception totale. Pourquoi Dieu? Je n'ai jamais été enceinte après ce moment. C'était la seule fois. Donc on a décidé d'adopter. Et après beaucoup d'interviews à l'État, franchement pénible, on a reçu l'accord pour adopter. On nous a dit de faire la demande à l'étranger, là c'était la Thaïlande, parce qu'il n'y avait que rarement des bébés adoptés en Suisse. Mais quelques mois plus tard, on a reçu un téléphone du bureau d'adoption nous demandant si on voulait un bébé de 5 mois, né à Genève, d'origine philippine. Alors de nouveau, pourquoi nous? En fait, ils ont proposé ce bébé à 6 couples avant nous et ils l'ont tous refusé.
Mais non, il était pour vous ce bébé.
Voilà, c'est ce qu'on pensait. Parce que, ouais, que Dieu voulait cet enfant pour nous. Plus tard, on a adopté 2 autres enfants de Thaïlande.
Alors il me semble que justement cet aîné, il avait une passion commune avec vous.
Oui, il avait un don pour la musique. Je lui ai appris à jouer du piano et de la guitare. Et il jouait avec nous et avec d'autres dans l'équipe de louanges. Et il écrivait des chants aussi.
C'est beau de pouvoir partager ça avec un enfant.
Oui, c'était magnifique. Ouais.
Et tu me racontais qu'un jour, ton mari a été interpellé lors d'une prière qu'il a eue avec Dieu.
Mmh. Oui, c'est quand notre fils cadet avait presque 9 ans que mon mari était en prière comme tous les matins et il sentait que Dieu lui disait de faire un check-up. À ce moment-là, il ne sentait rien, il n'avait pas mal, mais oui, plus tard, il sentait un petit point dans le dos et il pensait que peut-être il avait un calcul rénal. Son médecin a fait une radio et ne voyait rien. Il a dit non, il n'y a rien du tout là. Et notre voisine, qui était radiologue, a insisté auprès du médecin de mon mari pour faire un scan. Mmh. Ce qui a révélé un cancer sur une partie du pancréas et du foie. Et donc, s'il n'avait pas fait le scan, il n'avait que 3 mois à vivre. Mais finalement, après beaucoup de traitements, il a vécu 8 ans et demi de plus. Mmh. On était 40 ans ensemble. Et juste avant de partir, son dernier mot était « shalom ».
Ça veut dire quoi, « shalom »?
Que la paix soit avec vous.
Donc, il a béni.
Il a béni, oui. Mm. La paix de Dieu. Mm. Donc, jusqu'à la fin, il pensait aux autres. Une infirmière m'a dit que la veille de sa mort, mon mari a posé sa main sur sa tête et a prié pour elle.
C'est fort.
Mm. Comment vivre sans lui? J'étais vraiment perdue. On a fait tout ensemble. On a pris des décisions ensemble. Et notre fils aîné m'a beaucoup soutenue pendant ce moment difficile. On partageait nos questions et nos pensées sur Dieu et la Bible. Il m'a aidée à continuer. Un peu plus qu'une année plus tard, je reçois un appel que mon fils aîné est mort dans un accident de voiture. De nouveau, pourquoi Dieu? Mon fils aimait Dieu et son plus grand désir était d'être plus près de Dieu. Aux funérailles, 500 personnes sont venues. Il a impacté beaucoup de jeunes à l'université, à l'église. Pourquoi quelqu'un qui touchait tellement de gens autour de lui devait partir? Je ne sais pas.
Face à ces deux pertes inimaginables, quelles ont été tes réactions envers Dieu?
Je n'ai jamais été fâchée avec Dieu, mais j'ai crié beaucoup de fois. Pourquoi? Parce que c'était un double deuil en une année.
Et tu m'as dit que tu as vu Dieu te montrer de plusieurs manières qu'il était là.
Donc après la mort de mon fils, j'étais voir une conseillère chrétienne qui m'a beaucoup aidée. Mais c'est surtout Dieu qui m'a montré son clin d'œil régulièrement pour me dire « Je suis là avec toi ». Par exemple, une amie chrétienne l'a pris sur elle de m'envoyer tous les jours pendant une année un mot d'encouragement, une parole de la Bible. Et en fait, quand elle a arrêté d'envoyer les messages, une autre femme qui ne connaissait pas la première a commencé à m'écrire des mots d'encouragement pendant une année de plus. Ça, c'était vraiment Dieu.
C'est beau. T'as gardé la foi malgré les douloureuses épreuves de ta vie que t'as traversées. Pour certaines personnes, ça, c'est inexplicable. Tu peux essayer d'expliquer?
Je vais essayer. Souvent, après une mort, les gens citent Job. Dieu donne et Dieu reprend. Comme si c'est Dieu qui tue ou qui a tué. Mais dans l'histoire de Job, on sait que ce n'est pas Dieu qui a tué les enfants de Job. C'était l'ennemi, Satan. Il est vrai que Dieu donne la vie et je pense que quand quelqu'un meurt en Christ, Dieu reprend cette vie entre ses mains. Mais ce n'est pas Dieu qui a tué mon mari et mon fils. Tant qu'on est dans ce monde, il y aura toujours des maladies, des accidents, du mal. C'est seulement lorsqu'on sera avec lui dans le ciel qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances. Mon mari et mon fils me manquent beaucoup, mais je sais que je les reverrai dans le ciel.
Amen.
Mon fils aîné avait écrit un chant, « He knows the bigger picture ». Je ne sais pas si tu veux traduire.
il a une vue d'ensemble.
Oui, donc Dieu
a la vue d'ensemble. Il voit au-delà de ce que nous, on peut voir.
Oui. Donc, après sa mort, ce chant m'a beaucoup encouragée à mettre ma confiance en Dieu, même si j'ai encore beaucoup de questions. Je sais que Dieu seul a la vue d'ensemble de ma vie et de ta vie.
Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Alors Eric, face à cette question difficile, jusqu'où Dieu est responsable, bien, c'est à toi.
Très bien, merci. Alors c'est vrai, quand j'ai pensé à cette question que j'ai mis comme titre, jusqu'où Dieu est-il responsable, finalement cette réflexion que je me suis faite se base sur deux constats. Deux constats que je peux faire quand on regarde la société, quand on regarde ce qui nous entoure. Le premier, c'est que l'injustice, elle est omniprésente dans ce monde. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. On le voit de plusieurs manières. Il y a par exemple des catastrophes naturelles avec des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis, des glissements de terrain, et on peut en citer encore beaucoup d'autres. Et on se rend compte que le fait est que quand il y a une catastrophe comme ça, elle touche certaines personnes et elle ne touche pas d'autres. Pourquoi ? On peut aussi citer des maladies. Il y a des maladies plus ou moins graves qui peuvent apparaître au cours de la vie. Il y a des cancers, il y a du diabète, des atrophies musculaires, il y a des maladies rares, incurables, etc. Et c'est la même chose, c'est le même constat. Ça touche certaines personnes et ça ne touche pas d'autres. On peut aussi penser aux malformations à la naissance. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples, on ne va pas faire une liste. Mais c'est toujours ce même constat qu'il y a une injustice dans ce monde qui est omniprésente. Ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat que j'ai pu faire, c'est que quand un malheur frappe une personne, ou frappe ses proches, en tout cas quand la personne elle est touchée émotionnellement, je vois souvent deux réactions chez les gens, deux réactions différentes vis-à-vis de Dieu, en pensant à Dieu. Alors la première réaction que je peux voir, c'est soit le malheur va aider la personne touchée à se rapprocher de Dieu, Et on peut dire que cette personne va chercher du soutien auprès de Dieu. Elle va essayer d'avoir de la consolation. Elle va essayer de se rapprocher de lui. Puis dans ce cas-là, on peut dire que le malheur, d'une certaine manière, facilite un peu la relation entre l'individu et Dieu. Ça devient une opportunité, en fait. Ou au contraire, une deuxième réaction possible, et qu'on voit des fois, qu'on voit peut-être souvent même, c'est que le malheur va créer une révolte chez cette personne qui est touchée. Et pourquoi ? Ben précisément à cause de l'injustice ressentie. Et dans ce cas-là, la personne atteinte par le malheur, elle va plutôt se lever contre Dieu. Elle va lui en vouloir, elle va le tenir responsable de tous les malheurs. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a rien fait contre. Hein ? Il n'a rien fait pour que ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que dans ces deux réactions possibles, finalement, l'événement de base qui est un malheur et qui touche émotionnellement, chez certaines personnes, ça va être positif, ça va le rapprocher de Dieu, et chez d'autres personnes, ça va être négatif. Alors que finalement, c'est la même base, c'est le même événement initial. Alors, ma réflexion, elle tourne autour de cette question. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Qu'est-ce qu'on peut dire en particulier à tous ceux qui s'éloignent de Dieu quand ils sont touchés par le malheur, quand ils sont émotionnellement pris dans la souffrance ? Et ma réponse ou ma réflexion que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, elle est en deux étapes. J'aimerais toucher deux aspects, parler de deux aspects de ça. La première qui concerne plutôt la réaction humaine, et la deuxième étape qui est plutôt se focaliser sur Dieu. Qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, pour développer déjà un petit peu la première partie, la réaction humaine, pour essayer de se comprendre l'être humain, quand quelque chose de négatif nous arrive, on se demande presque toujours, c'est quoi la question qui arrive toujours ?
Où est Dieu, non ?
Ou pourquoi ?
Pourquoi ?
Surtout à moi, après ça.
Voilà, exactement. Ouais, et tu l'as très bien introduit tout à l'heure. On se pose la question, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ça ? Etc. Pourquoi ? C'est vraiment la question qu'on se pose le plus dans la vie. Et je vous pose la question, pourquoi ? Pourquoi on se pose cette question ?
On te laisse y répondre.
Simplement, mais tu l'as très bien introduit aussi, Stéphane, tout à l'heure. C'est que dans notre esprit cartésien, logique, on accepte beaucoup mieux quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui a une explication, quelque chose qu'on peut comprendre. On cherche finalement une relation de cause à effet. Il y a un effet quelque part, on va chercher à cause de quoi c'est. Puis si on a trouvé la raison, on va accepter qu'il y a une conséquence logique quelque part. Et c'est encore plus vrai, je dirais, dans notre société occidentale, ici en Europe, où on a assez peu tendance à s'en remettre au destin, hein, au destin ou à la fatalité. Et d'ailleurs, le destin ou fatalité, ça accompagne une forme de résignation face au malheur. Mais donc, quand un malheur ou une difficulté arrive dans notre vie, on ressent de l'injustice. Et on va essayer d'y trouver un sens pour essayer de l'accepter et de la surmonter. Alors, bien évidemment, et je pense que vous vous en doutez un petit peu, c'est qu'on ne trouve jamais la réponse à la question pourquoi. Hein, parce que, tout simplement, il n'y a pas de sens logique. Quand quelque chose arrive, il n'y a pas un sens logique qui explique pourquoi un malheur nous touche en particulier, nous. Et donc, on va rester avec une frustration intérieure, parfois très profonde et lourde à porter, même dans la vie. Et on va automatiquement chercher un exutoire. Pour se libérer de ce poids qui est si lourd et qui nous habite, qui nous empêche un peu d'avancer dans notre vie de tous les jours. Alors, à défaut d'une raison rationnelle au malheur ou à l'injustice, on ira chercher un coupable, on ira chercher un responsable. Et à nouveau, je vous pose la question, pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce que le fait de mettre la faute sur quelqu'un, ça permet premièrement d'éliminer un sentiment de culpabilité personnelle. Hein, si c'est lui le coupable, c'est pas moi. Donc finalement, on se libère d'une culpabilité personnelle. Et puis d'autre part, dans notre schéma mental, le fait de définir un responsable permet d'envisager une reconstruction, un rétablissement de la justice. Hein, on est touché par une injustice qu'on voit, et si on trouve un coupable, y a un processus de justice qui peut commencer. Procès, condamnation, etc. Rétablissement de la justice. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde les informations avec beaucoup de catastrophes et de choses terribles qui peuvent arriver, pratiquement systématiquement, en tout cas très souvent, on a le besoin de chercher un responsable, un coupable, hein, parce qu'on est en quête de justice. Alors ça, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la réaction humaine. Hein, c'est une réaction qui est parfaitement compréhensible, même si elle n'a pas toujours, même pas souvent, on peut dire, de fondement rationnel ou factuel. On est vraiment dans l'émotionnel pur, là, hein, ça c'est clair. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut enlever l'émotionnel dans mon discours, pas du tout. L'émotion fait partie de la vie, mais il faut simplement prendre un petit peu de hauteur et essayer de regarder les événements avec un peu plus d'objectivité, finalement, sans se laisser submerger par l'émotion. Alors, cette première partie que je viens un petit peu de détailler, ça concerne, comme je disais, le côté humain, notre réaction humaine. Et la deuxième partie qui concerne Dieu, que j'aimerais un petit peu développer aussi en quelques minutes, et Dieu dans tout ça, finalement, où est-ce qu'il se situe ? Au milieu de tout ça, souvent on voit que Dieu, il devient le bouc émissaire, hein, la cible facile. Finalement, c'est le responsable. J'ai dit tout à l'heure, on cherche un responsable. Bah, lui, c'est le responsable tout trouvé. Hein. On peut le charger de tous les maux de la terre, de tous les problèmes du monde. Et finalement, lui, il ne va pas trop se révolter. Hein. On ne voit pas des gros éclairs qui sortent du ciel parce qu'on l'accuse à tort. Non, lui, il va se laisser faire, hein. comme un agneau, je dirais. Il y a cette image dans la Bible d'agneau, hein, qui se laisse faire malgré les souffrances et les accusations. Mais en introduisant ce terme de bouc émissaire, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est une expression qui est couramment utilisée dans notre langage, dans la vie de tous les jours, mais qui trouve son origine dans la Bible, qui trouve son origine dans Lévitique 16, au verset 21 et 22. Alors, pour faire très court, c'était du temps où le peuple de Dieu était sorti d'Égypte, où il était esclave en Égypte, donc il sort d'Égypte, il est dans le désert sur le chemin qui le mène sur la terre promise par Dieu. Et puis, dans ces 40 ans que ce peuple d'Israël, ce peuple de Dieu a passé dans le désert, une fois par année se déroulait une cérémonie spéciale, une cérémonie de purification du tabernacle. Alors le tabernacle, c'est aussi appelé dans la Bible la tente de la rencontre, c'est finalement le lieu où on rencontrait Dieu, le lieu où se faisaient les cérémonies religieuses. Et cette fête, cet événement qui arrivait une fois par année s'appelle, je dis encore maintenant parce que dans le peuple juif c'est toujours le cas, mais le Yom Kippour, hein, c'est ce jour de vraiment de purification, c'est-à-dire que ce jour-là, toutes les fautes du peuple qui avaient été accumulées donc pendant toute une année, ben ce jour-là, toutes ces fautes devaient être effacées. C'est comme si donc ce tabernacle, cette tente de la rencontre, était purifiée des fautes du peuple, et c'est comme si on remettait les compteurs à zéro, en fait, pour l'année qui va venir, qui va commencer. Et dans ce processus, on choisissait un bouc qui était choisi, sur lequel on transférait toutes les fautes du peuple, hein, symboliquement, on transférait les fautes sur ce bouc, et on chassait ce bouc dans le désert. Il était envoyé dans le désert, donc vers une mort certaine. Hein, dans le désert, il n'y a pas de subsistance, il n'y a pas de... Voilà. Et en fait, quand on regarde c'était une façon de chasser, en fait, les fautes. Mais dans cette histoire, on se rend compte que le bouc lui-même était innocent. Il n'avait fait aucun mal. On ne peut pas dire qu'il avait mérité la mort. Il servait simplement d'émissaire. C'était un émissaire. Donc, d'où l'expression bouc émissaire. Voilà. Alors, c'est intéressant, ce symbole du bouc, parce que finalement, ça nous fait penser à Jésus. Jésus, il a pris sur lui toutes nos fautes et il est allé jusqu'à la mort sur la croix pour payer. Donc, c'est lui qui a payé pour le mal que nous, on a fait. Il a porté nos fautes et il est mort pour cela. Alors, si on compare Dieu à ce bouc émissaire qui était innocent, est-ce qu'on peut vraiment dire que Dieu est innocent? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est vrai que le raisonnement qu'on entend parfois, il ressemble à celui-là. Moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais si Dieu a la puissance de faire quelque chose et qu'il n'a rien fait, s'il n'a pas empêché le malheur, bah finalement, moi je le tiens pour responsable. C'est de sa faute. Alors, je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas un peu simpliste comme raisonnement? C'est une réaction logique, hein, finalement, qu'on entend souvent. Voilà. Et c'est vrai que quand on est dans un état émotionnel intense, hein, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, on fait très souvent des raccourcis pour trouver un responsable, pour trouver un coupable, un responsable qui nous semble plausible. Et une fois qu'on a trouvé un responsable, c'est très, très difficile de remettre ça en question. De se dire finalement, ah, je me suis trompé, finalement, c'est pas lui, il faut chercher ailleurs. C'est vraiment très, très compliqué. C'est un schéma mental. Hein. C'est très compliqué de se rendre compte qu'on s'est trompé. Alors, pourquoi ce raisonnement que l'on fait si facilement par rapport à Dieu est simpliste et faux? En tout cas, c'est mon opinion. Ben, en fait, je vais vous donner un exemple assez simple qui illustre, je pense, assez bien ça. Si je roule, toi, tu as pris l'exemple tout à l'heure de si je suis en voiture et puis j'arrive à un carrefour, il y a le feu rouge, je grille le feu rouge, etc. Alors, ben, moi, je prends un exemple qui se rapproche un petit peu de ça. Si je suis sur l'autoroute, je conduis, je fais un excès de vitesse. Et au moment où le problème arrive, alors le problème, ça peut être dans le meilleur des cas une simple contravention. Hein, dans le pire des cas, ben, ça peut être un accident grave avec peut-être des morts à la clé. Mais enfin bon, le problème arrive. Si le problème arrive, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais accuser la police ou les autorités? Est-ce que je vais accuser le constructeur de la voiture? Parce que finalement, c'est eux qui m'ont permis d'aller vite comme ça.
Mm-hmm. Hein,
c'est pas de ma faute. c'est eux, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est de leur faute. Voilà. Alors, vous voyez bien que dans ce raisonnement, ben, c'est un petit peu simpliste. C'est un raisonnement qui est faux. Hein, en fait, si la police, les autorités ou même le constructeur de la voiture n'ont rien fait... C'est pourquoi? C'est parce qu'ils nous laissent une marge de liberté. Et ils font appel finalement à notre responsabilité personnelle. On ne peut pas juste se décharger sur les autres parce qu'il y a un problème qui est arrivé. C'est pas comme ça que ça marche, quoi, on peut dire. Et si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas cette marge de liberté, ben, je crois que tout le monde est d'accord qu'on vivrait dans une dictature totale. On n'aurait aucune marge de manœuvre et on serait même totalement oppressé. Hein. Il y a des films d'ailleurs qui illustraient très bien ça. Je pense que vous avez certainement des choses en tête. Mais vous voyez un petit peu cette société qui est très oppressante. Ben, finalement, Dieu, il agit selon le même principe. Hein. Premièrement, s'il était toujours derrière nous, à nous empêcher de faire des erreurs, ben, ce serait un dictateur, simplement. Et si, au contraire, il était derrière nous, toujours derrière nous, non pas pour nous empêcher, mais pour corriger nos erreurs, eh ben, on n'apprendrait pas de nos erreurs, on ne progresserait pas. Hein. Tu as pris l'exemple avec les enfants aussi, mais c'est la même chose. Si on est toujours derrière eux, ils ne progressent pas, ils n'avancent pas. Eh ben, Dieu, c'est l'inverse de ces deux exemples. Il n'agit pas comme ça. Dieu, il nous laisse la liberté. Et on peut même dire qu'il nous laisse une très, très, très grande liberté. Alors, n'oublions pas... Un élément important aussi, peut-être que je peux ajouter aussi, c'est que quand on parle de malheur, c'est pas Dieu qu'il faut associer au malheur. Et la Bible, elle nous dit très clairement que Dieu, il a un adversaire. Et on en parle assez peu, finalement, dans notre discours. Hein. Mais, discours habituel, j'entends. Mais finalement, la Bible nous dit que c'est cet adversaire par lequel le mal est entré dans le monde. Cet adversaire, si on prend le texte de Apocalypse 20 au verset 2, ben, la Bible l'appelle le serpent ancien, le dragon, le diable, ou même nommément, elle le nomme Satan. Hein, et ce personnage est en lutte à mort contre Dieu. Et finalement, c'est cet adversaire qui règne sur le monde actuel. Jésus va même l'appeler le prince de ce monde. Donc, voilà, il y a un adversaire. Et alors, si je résume un petit peu ce que j'ai voulu exprimer ici, et ce que je partage avec vous, c'est que premièrement, Dieu, il n'est pas responsable des catastrophes ou des malheurs du monde. Mais c'est plutôt l'adversaire qui est responsable. C'est lui qui a introduit le mal, qui a introduit toutes les choses qui ne vont pas, les douleurs, les souffrances, etc. Et au contraire, Dieu, je dirais que c'est justement celui qui va combattre ce mal. Alors, si on veut voir moins de mal dans notre monde, dans notre vie, si on veut voir moins de souffrance, ben, on a intérêt de choisir le bon camp et puis de se réconcilier avec Dieu, parce que c'est lui qui va combattre cela. Et dans la Bible, Dieu, il nous promet qu'il rétablira la justice. Il a promis qu'il reviendra, Jésus a promis qu'il reviendra et qu'il effacera le mal tout entier. Aucune souffrance actuelle, aucun deuil que l'on peut vivre aujourd'hui n'est vécu, n'existe en vain. Hein, c'est ce que nous dit la Bible. Dieu y promet de récompenser à la hauteur de ce qui a été enduré par chacune et par chacun. Donc finalement, ça ne sert à rien d'accuser Dieu parce qu'on se trompe de cible. Et au contraire, faisons-lui confiance, rallions-nous à lui. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui véritablement rétablira toute la justice qui manque dans ce monde actuel et dont nous sommes tous conscients, dont nous sommes les victimes finalement. Et il faut vraiment se rendre compte qu'on est au milieu d'une bataille, au milieu d'un conflit, un conflit qu'on ne voit pas. Mais par contre... La Bible nous dit déjà qui aura le dernier mot, qui rétablira la justice. Alors, je vous invite, vous, j'invite tous ceux qui nous écoutent, choisissons le bon camp, maintenant, dès aujourd'hui. Et on le connaît, ce camp qui est juste.
Merci Eric pour ce partage. Ce thème me parle beaucoup, j'ai déjà parlé, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde. Donc maintenant, c'est l'heure du partage entre nous dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Alors mes amis, est-ce que ce thème, cette réflexion vous parle ?
Bah oui. Si tu veux parler, moi j'y vais.
Vas-y, vas-y.
Allez, je commence. Alors Eric, tu as abordé notamment toute cette question que les gens peuvent se poser, pourquoi moi en fait, hein? C'est une question que je rencontre beaucoup et je me suis dit, mais en tant que chrétien, comment est-ce que je peux répondre à cette question? Ben simplement en acceptant de ne pas avoir la réponse, finalement, de pas pouvoir non plus tout comprendre. Et je veux profondément croire que Dieu est juste, que Dieu est bon, mais concrètement, dans ce qu'on vit, on est parfois confronté à des choses qui sont difficiles. Moi, j'ai dirigé, par exemple, pendant 10 ans, des établissements pénitentiaires sur Genève. Je suis aujourd'hui encore au travail avec des personnes détenues qui présentent des comportements dangereux, qui ont fait des choses graves, en fait, hein, contre des hommes, des femmes, des enfants. Comment est-ce que je peux expliquer à des victimes, par exemple, que Dieu est bon? Quoi dire à des parents d'enfants qui vivent avec un handicap aussi, aux couples qui sont en espoir d'enfants et pour lesquels il n'y a pas de réponse, semble-t-il, de Dieu? Qu'est-ce que je peux dire à ceux qui ont fait face à une perte de grossesse, etc., etc.? Comment est-ce qu'on peut comprendre pour quelles raisons Dieu n'intervient pas? Est-ce que Dieu ne les a pas protégés? Est-ce que, voilà. Et ça peut concerner autant les chrétiens que ceux qui ne le sont pas. Donc, il n'y a pas une histoire de mérite. Je suis chrétien, donc franchement, je fais des choses plutôt bonnes et donc je suis épargné. Non, non. Et ça, d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans un autre culte espoir. Face aux maladies, pourquoi certaines personnes s'en sortent ou pas, j'ai pas de réponse en fait à tout ça de manière très concrète pour la personne qui est face à moi et qui vit un temps de détresse, un temps de douleur et aussi dans ce que je traverse dans ma vie. J'ai pas de réponse et je suis assez ok en fait avec ça, avec le fait que ces réponses je les ai pas. Alors comment est-ce que je vis avec tout ça? Ben je veux croire qu'au retour de Jésus, hein, on parle de ça dans la Bible, on aura les sous-titres de tout ça, des explications sur des clés de compréhension en tout cas. Et je sais que c'est des choses que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, qui n'existent peut-être pas à taille humaine dans notre compréhension. Mais en attendant, je veux faire ce choix de choisir mon camp, donc de choisir Dieu, et puis dans mon quotidien, de décider de lui faire confiance, même si je ne comprends pas tout, quelque part.
Moi, j'ai trouvé intéressant ce que tu parlais du danger ou de la limite entre tout protéger et tout rectifier. Enfin, c'est un équilibre qui ne doit vraiment pas être évident. Et cette question, elle me faisait juste penser à une histoire de la Bible, où Jésus est confronté au décès d'un de ses amis qui s'appelle Lazare et dans lequel il va pas venir. En fait, on l'informe et il vient pas tout de suite. Et il y a toutes ces questions en fait. Si t'avais été là, mais pourquoi? Et puis, t'as ressuscité t'as guéri plein de gens, donc t'avais qu'à le guérir. Enfin, il y a plein. En fait, toutes ces questions se retrouvent. Ça m'a fait repenser à cette histoire. Et j'aime cette attitude d'une des sœurs qui dit, ben, je sais que t'as la capacité de, et je te fais confiance. Et ça a laissé à Jésus, là, il a agi de la façon dans laquelle il a agi, mais elle était prête à recevoir la suite et à faire confiance. Mais c'est sûr que c'est pas facile à vivre.
C'est pas facile. Donc juste pour info, donc cette histoire, ça est dans Jean 11.
Oui.
Je le sais parce que j'ai étudié la semaine passée. Mais c'est ces questions que c'est aussi valable de les poser, parce que parfois on dit que t'as pas le droit de poser ces questions-là. Et c'est valable. On peut poser la question de Dieu pourquoi. Parfois on a la réponse, parfois on n'a pas. Donc je pense que vraiment avoir confiance, comme tu as dit, il faut choisir, son camp, choisir le camp de Dieu, de dire « Ok Dieu, je ne sais plus, je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance, peut-être dans un an, 5 ans, 10 ans, ou peut-être je n'aurai pas la réponse tout de suite, mais quand Dieu va revenir, on aura la réponse, ça c'est clair. » Mais il faut juste avoir confiance en Dieu et accepter les choses comme elles sont et pouvoir avancer.
Je crois qu'effectivement, les questions que tu posais dans ta réflexion sont assez intéressantes et elles sont tout à fait légitimes. Et je pense qu'on est beaucoup à se poser ce genre de questions. C'est intéressant parce que c'était vraiment une perche que tu me tends dans ce que tu disais tout à l'heure pour faire de la pub pour la semaine prochaine, parce que je vais apporter...
Super, vas-y, on t'écoute, Eric.
Quelques réponses. Alors, pas toutes les réponses, j'ai pas cette prétention-là, loin de là. Je pense que ton attitude, ta réflexion est juste, hein, de se dire, finalement, il y a des choses qu'on comprend pas. Il faut l'accepter. On sait que Dieu, il se révèle au travers de la Bible, mais on voit quand même les choses de façon voilée. Hein. C'est la Bible qui le dit d'ailleurs comme ça, et que finalement, quand Dieu se reviendra, ben, on verra les choses dévoilées. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont s'expliquer. Mais malgré tout, même si il y a des questions qui restent sans réponse, choisir le bon camp, ça apporte énormément dans la vie. Et ça, on en parlera la semaine prochaine.
Super.
Merci beaucoup pour ce moment de partage. Je pense qu'on va pouvoir rester ici plusieurs heures.
Ah ouais.
Donc Manon, cher auditeur, chère auditrice, n'hésitez pas à en discuter entre vous et partager aussi ce culte.
Alors quand Amandine a pris connaissance du thème que tu nous proposais pour ce culte, eh bien ça lui a fait penser à un film qu'elle avait regardé il y a quelques mois et qui s'appelle « Interview avec Dieu ». Alors je vous lis le synopsis officiel. Rentré d'un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition, sa foi est mise à rude épreuve. Lorsqu'il se voit proposer une interview avec un homme qui se prétend être Dieu. Alors si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ? Alors je vous propose déjà d'écouter la bande-annonce.
Quand j'entends quelqu'un dire « J'ai perdu la foi », j'imagine qu'il renonce. Pour moi, ce fut différent.
Salut, Gary.
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Je travaille sur un projet. Je suis sur une sorte de conversation.
Avec qui ?
Paul Asher. Du journal des
rabbins. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan.
Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît ?
Je suis Dieu. D-I-E-U.
Ok, donc vous êtes Dieu, celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas ?
Dites-leur que ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin.
Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention.
Vous ne la méritez pas ?
C'est à propos de cette interview, là. Ça prend une drôle de tournure. Si je t'envoie une photo, tu peux trouver qui c'est ?
Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul.
Combien de fois encore il faudra que je m'excuse ?
Beaucoup de choses se sont passées. Je pourrais pas supporter de revivre ça.
C'est Sarah. Elle m'a quitté.
Ton voyage en Afghanistan ?
Je crois que le problème est plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin.
Vous n'avez plus de temps à perdre.
Vous êtes en train de dire ?
Oui.
Cette interview, ça bouffe à mort.
Il est réel, cette interview ?
Ouais.
Avec Dieu ?
Ouais.
C'est toi qui me dis de prier ? Et alors ?
Je voudrais vous parler de votre salut, Paul.
Alors vous êtes là pour me sauver ?
Vous avez besoin d'être sauvé ?
Comme tout le monde. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où ? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver ?
Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front.
Paul, je vous ai fait un très grand cadeau, mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent. Avant qu'il ne soit trop tard. La vie n'est pas une audition pour accéder à l'au-delà.
Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Qui êtes-vous ?
Vous savez qui je suis.
Interviewer Dieu, c'est super.
Tu délires ?
Je crois que Dieu mérite bien une première page, t'es pas d'accord ?
Alors, je sais pas si vous l'avez vu... Mais pour préparer cette chronique, Amandine est retournée voir ce film, et elle qui est assez critique sur les types de films, eh bien, elle voulait vérifier si tout était conforme à ses goûts pour ce partage, pour pouvoir vous le partager. Alors, elle a pu confirmer qu'elle trouvait que les acteurs sont bons, les réflexions intéressantes, et ce n'est pas un film familial, oui, trop complexe pour les enfants, mais elle l'a trouvé assez interpellant. Si tu te retrouvais face à Dieu pour 3 courtes interviews journalistiques étalées sur une semaine, quelles questions lui poserais-tu ? Eh bien, avec Paul, les questions fusent, comme on a pu entendre, elles s'enchaînent en essayant de garder le professionnalisme du journalisme, le sens de la vie. As-tu toujours existé ? Es-tu amour ? Le libre arbitre existe-t-il ? Pourquoi prier ? L'Ancien, le Nouveau Testament, c'est ta parole. Des questions banales, mais en même temps existentielles. Et puis, pourquoi les mauvaises choses arrivent à des personnes de bien ? Voilà, une question qui titille et que Paul ne veut pas poser parce qu'il dit que ça ressemble plus à une plainte qu'à une question. Et pourtant, elle est au cœur de sa souffrance, de ses doutes et de son désespoir. Alors ce film fait réfléchir notamment sur les conséquences de rentrer en discussion avec Dieu. Parler avec Dieu, l'écouter, accueillir ses réponses, sa vision du monde, de nous, c'est un process. On ne peut pas aller plus vite que nous-mêmes, plus vite que ce que nous sommes prêts à entendre, prêts à accueillir, prêts à remettre en question, à transformer. Parler avec Dieu ne laisse pas indifférent, ça travaille, déstabilise, ça dépasse notre logique. On peut être dans la présence de Dieu, lui parler, et pourtant ne pas parler de ce qui est essentiel. du cœur, de ce qui nous préoccupe, de ce qui fait mal. Et si en fait ce dialogue VIP auquel Paul a accès était aussi accessible à nous ? C'est là toute la question. Et je te laisse te réserver une petite soirée sympa pour regarder ce film et pourquoi pas après en discuter avec tes amis.
Je nous invite maintenant à un temps de prière. Tu peux simplement écouter, peut-être fermer les yeux là où tu es pour prier avec nous. On aimerait te dire, Seigneur, que la vie est parfois bien difficile. Nous pouvons nous sentir ballottés de gauche, de droite, puis pris entre le marteau et l'enclume. Et puis dans tout ce qui survient, on peut avoir tendance à être en colère contre toi. Nous découvrons avec ce culte que tu n'es pas responsable de la misère du monde. Et on aimerait te demander de nous pardonner pour ces sentiments souvent contre toi que nous avons nourris. Nous découvrons que nous pouvons compter sur ton soutien parce que tu es un Dieu qui promet de racheter les années difficiles, de nous redonner ce qui a été volé, abîmé. Tu promets d'ouvrir un chemin nouveau. Et dans ces temps difficiles que nous vivons, montre-nous ce chemin nouveau. Ouvre nos yeux pour que, au milieu de ce désert de notre vie, nous puissions découvrir ce chemin que tu traces, cette chose nouvelle que nous peinons à entrevoir. Apporte à nos vies, Seigneur, l'espoir, la force de tenir dans les difficultés et toutes les incompréhensions, en restant confiant que tu tiens le monde dans ta main et que tu nous promets un avenir. Dans le nom de Jésus. Amen.
Pour cette semaine, je t'invite à un moment d'introspection. Nous avons vu avec Eric que Dieu n'est pas responsable des malheurs du monde. Et quand le malheur arrive, on se demande si pourquoi. Donc je t'invite à te souvenir de quelques moments où tu as posé la question « Pourquoi ?» Pourquoi cela arrive-t-il ? De voir comment tu as réagi à ce moment-là et comment, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu aurais pu réagir. Quelles sont les leçons que tu as pu en tirer ? Et si ce moment-là t'a fait éloigner de Dieu, ou au contraire, tu l'as vraiment rapproché de lui. Prends vraiment un moment durant cette semaine, un endroit calme pour faire vraiment cette action. Et je te laisse, à toi de jouer.
Eh bien, merci Stéphane pour cette action. Comme à notre habitude, j'aime prendre le temps de vous remercier à la fin. Mais remercier les chroniqueurs, merci Marina, merci Stéphane pour vos préparations, vos réflexions. Soyez bénis. Merci pour ces invitations à la réflexion aussi. Merci à Eric pour le message que tu as préparé pour nous, pour cette réflexion. Et merci d'être venu vivre ce petit culte avec nous. Et la semaine prochaine, tu nous as déjà donné le petit teaser. Yes. Il faut venir comprendre quel est le plus. Et j'aimerais remercier Dieu, bien sûr, qui est la raison d'être de notre culte. Te remercier, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir vécu ce culte avec nous. Et que notre Papa Céleste te bénisse, te garde, te guide et te comble de son amour. Belle semaine et à très bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.